BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à tous, merci d'être là, très heureux de vous retrouver pour De quoi je me mêle. Vous savez, tous les week-ends, c'est votre rendez-vous tech, à la fois en exclusivité, dès le vendredi midi sur la chaîne YouTube de BFM Tech, en podcast audio avec le petit module bonus, et puis vous le savez, tout au long du week-end, en rediffusion sur BFM Business, à la radio, à la télé, avec pour cette semaine, dans De quoi je me mêle tout à l'heure, un gros plan sur un constructeur chinois qui a des choses à dire en matière de smartphone, c'est Oppo. Oppo qui a eu, on va dire, des hauts et des bas, hein, puisque, rappelons-le, ils ont quitté notre pays il y a quelques années de cela, un peu comme des voleurs, hein, pour tout dire, et puis ils reviennent maintenant avec une nouvelle gamme de produits. On en parlera avec l'un des porte-parole d'Oppo qui sera avec nous sur le plateau. Le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, et notamment sur X. Un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Voilà, quand je dis voleurs pour Oppo, c'est pas des voleurs, ils vont pas vous piquer votre téléphone. Hein. C'est vrai qu'ils sont partis de manière un peu cavalière, hein, pour rester poli. Tiens, on va commencer par le club de la presse IT. Et aujourd'hui, avec nous pour commenter l'actu, nous avons Pierre Fontaine. Salut Pierre.
Salut.
Pierre Fontaine qui est rédacteur en chef adjoint, vous le savez, de BFM Tech. C'est lui qui suit toutes les dépêches tech et que vous pouvez lire sur le site de BFM Tech.
C'est ça.
Voilà.
Tout à fait.
Tout va bien ?
Ben oui. On a eu une petite nuit.
Une petite nuit ?
Ben oui.
Mais oui, parce qu'il y a eu la Google I.O.
Ben oui, on se demande pourquoi.
Et oui, puisque rappelons que ce De quoi je me mêle est enregistré le jeudi matin. Et t'as vu qui nous avons avec nous cette semaine ?
Qui ?
Mais qui est là ?
Okay,
mais quel plaisir de le retrouver, c'est Jérôme Colombin. Salut Jérôme !
Salut les amis !
Mais ah là là !
Je suis ravi également, j'ai l'impression d'être revenu 10 ans en arrière.
C'est ça, Jérôme Colombin.
Je crois que ça fait 10 ans la dernière fois que je suis venu dans ton studio ici.
Alors peut-être pas pour De quoi je me mêle, parce que je crois que tu étais venu au CES de Las Vegas, on s'était croisé dans cette émission, mais c'est vrai que ta présence dans De quoi je me mêle est rare. Tu viens plus souvent nous voir dans Tech & Co. Et merci d'être là.
Avec
ça fait plaisir toujours.
Également.
Voilà, Jérôme Colombin, que vous pouvez retrouver évidemment en podcast avec son propre podcast Monde Numérique, avec l'actualité tech tous les jours. C'est en audio, c'est en vidéo. Il y a aussi un site Monde Numérique, etc. Et tout à l'heure, on va parler de ça dans le petit module bonus. Voilà, je vous le montre si vous êtes avec nous en audio, parce que Jérôme sort un bouquin pour qu'on fasse des meilleurs podcasts.
Bon, alors ça s'adresse pas. C'était pas vraiment destiné à toi. Hein.
Non, mais ça s'adresse pas à tout le monde. Mais en revanche, c'est vrai que vu l'explosion du podcast, on en parlera tout à l'heure, c'est très intéressant. T'as pas envie de te lancer dans les podcasts, Pierre ?
Mais je le lirai avec intérêt en tout cas, parce qu'il y a toujours des. Je suis sûr que j'apprendrai plein de choses.
On va commencer donc ce De quoi je me mêle, ce club de la presse IT, par l'actu chaude du moment. C'est la grande soirée que Google nous a proposée. Alors là, ils ont tout mis, hein, Google, hier, pour cette Google I.O. Évidemment, le patron de Google, Sundar Pichai, est monté sur scène en introduction, bien évidemment, comme à chaque fois. Et puis alors là, ça a été un défilé d'innovation. Tout boosté à l'IA, que ce soit le moteur de recherche Gmail, que ce soit aussi des outils qui ressemblent à OpenClaw, on va en parler. Mais pour débuter, Pierre et Jérôme, vous l'avez sans doute vu comme moi, il y a eu quand même une annonce hardware.
Ouais.
C'est la paire de lunettes Google en collaboration avec Samsung.
Ouais. Alors, elle avait déjà été teasée, hein, si on se souvient bien, en octobre dernier par Samsung à la fin de sa conférence. Et là, on l'a vu un petit peu plus. Alors en fait, c'est des lunettes à quatre, hein, ils sont quatre à se les partager. Parce qu'il y a Samsung qui fait la partie électronique,
ouais.
Il y a Google qui fait la partie intelligence,
ouais.
Et puis on va dire le design est confié à deux grands, vu que Luxottica et Sealer est déjà un petit peu
monopolisé
par quelqu'un d'autre. Donc il y a deux marques, effectivement, une coréenne, Gentle Monster, et une américaine, Warby Parker, qui sont chargés de faire des designs. Alors, les Coréens font des designs un petit peu plus originaux, foufous, on va dire.
Oui,
et puis,
un peu K-pop, quoi.
Voilà. Franchement, c'est assez sympa. Mm-hmm. Je trouve assez sympa. Je ne sais pas si je les porterai, mais c'est sympa. Et puis, Warby Parker a effectivement une approche un peu plus classique. Mais en fait, ça fait donc des lunettes intelligentes, au sens où on embarque Gemini dedans, même si, il faut le préciser, elles sont connectées obligatoirement à un smartphone. Et quand je dis smartphone, attention, ce n'est pas forcément un smartphone Android. Ça peut être iOS. Et ça, franchement, c'est une bonne nouvelle.
Ouais. D'ailleurs, et d'ailleurs, c'était écrit hein, lors de la présentation, compatible avec les téléphones Android, mais aussi iOS.
Et ça, alors, c'est pas forcément une surprise, quoique un peu quand même, vu que c'est Samsung qui a la manœuvre côté, côté hardware. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Et ce qui prouve aussi que l'intégration Gemini dans iOS permettra pas mal de choses, vu que c'est Gemini qui est aux commandes de la partie intelligente.
Et on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que les relations se sont quand même réchauffées entre Apple et Google. Alors, je ne sais pas si elles étaient vraiment très tendues. Ils sont concurrents sur certains domaines. Mais c'est vrai que, par exemple, sur le futur de Siri, on sait que c'est Gemini. Donc, forcément, ça crée des liens. Et ça va être intéressant de voir si, justement, c'est Apple qui a fait un effort d'intégration de ses lunettes ou si c'est Google et Samsung qui ont réussi à trouver des portes d'entrée en fait dans iOS.
Et puis, est-ce que ce sera un accès complet ? Est-ce que on aura vraiment accès à, fonctions, à l'intégralité ?
Parce qu'aujourd'hui, on peut connecter des montres hors Apple Watch. Oui. On a des fonctionnalités.
Il y a eu même des ouvertures sur les réponses. Maintenant, on peut répondre à des notifications via une montre qui n'est pas l'Apple Watch sur iOS.
C'est une des conséquences, DMA, je crois, non ?
Une des conséquences, voilà, des règles.
Donc, c'est que pour l'Europe. C'est pas pour les États-Unis.
Il y a quand même des ouvertures parce que, enfin, comme on l'a vu sur le droit à la réparabilité ou ce genre de choses, quand il y a une grande région du monde qui décide quelque chose, il est assez rare que les autres suivent pas tôt ou tard. Mais là, effectivement, il faudra voir quel est le spectre possible. Ouais. Mais après tout, on peut se dire, il suffit d'une bonne connexion. Si tout passe par l'application Gemini, voilà. Alors peut-être que est-ce que Gemini pourra aussi bien chercher dans les mails, dans plans, parce que le but, c'est aussi de savoir, par exemple, les quelques exemples d'usage qu'ils ont mis en avant. C'est par exemple, je suis dans un aéroport ou je sors du métro, où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais, pardon ?
Où est-ce que je vais ?
Où est-ce que je vais ? Dans les champs. Non, mais où est-ce que je vais ?
Mon Dieu !
Et donc, voilà, ça, c'est un des exemples.
Attention, la
vache ! Il y a l'exemple de prise de photos aussi, bien sûr.
Et puis Gemini, qui est toujours là, finalement.
Mais en fait, c'est voilà.
Avec lequel on peut dialoguer.
Et en fait, il y a deux modèles.
Il y a un
avec écran, donc on va avoir un petit retour, par exemple des flèches, si on veut savoir où est-ce que je vais.
Un peu la métadisplay.
Voilà, ouais, tout à fait. Hein. Donc un petit écran, et puis une version qu'ils appellent audio, donc sans écran, où on interagit oralement une fois qu'on a pressé le bouton pour la réveiller. Et puis ensuite, on a des retours haptiques et audio.
Jérôme, ça, j'ai l'impression que ça se réveille quand même dans le monde des lunettes connectées, avec donc Meta qui a un gros succès.
Ouais.
On voit Google. Google arrive aussi là-dessus.
C'est un moment que ça bouge. Hein. Et je trouve que Google ne pouvait pas faire moins que de sortir quelque chose là. Google, c'est quand même l'inventeur des Google Glass. Il y a 10 ans.
Ben justement, moi je me suis dit, ils n'en sortent pas parce qu'ils sont pris un tel bouillon avec ce truc-là qu'ils vont attendre vraiment que ce soit au point pour en sortir une paire.
Oui, mais enfin, l'échec, si on peut dire, des Google Glass, moi j'ai envie de dire, ce n'est pas la faute de Google, c'est la faute des gens.
Ben, c'est les glaces. C'était les utilisateurs qui étaient posés problème. Alors est-ce que les utilisateurs ont changé ? Le futur le dira.
C'était il y a 12 ans, quoi. Donc c'est vrai que c'était une autre période.
Puis c'était pas des vrais goûts, c'était pas des lunettes, hein, c'était un truc bizarre qui avait pas de verre, etc. N'empêche. Mais tu dis, il se réveille. Oui, mais il se passe énormément de choses sur les lunettes. Il y en a plein. On parle des quelques modèles emblématiques de Meta, de Google, etc. Mais quand tu regardes en Asie, ça y est, ça se vend partout dans les magasins, au Japon, en Corée. Il y a plein de modèles qui sont déjà disponibles. Il y a TCL qui fait des trucs super en Chine et tout. Donc, c'est un peu normal. Ce que je trouve intéressant, c'est que derrière ce terme lunettes connectées, qu'on devrait peut-être abandonner, en fait, il y a plein de réalités différentes. Tu l'as dit, là, il y a deux modèles. Il y en a un avec écran, l'autre sans écran. Déjà, c'est une segmentation qui va jouer sur le prix, très certainement, mais qui va jouer aussi sur les usages. Est-ce que l'écran n'intéressera pas forcément tout le monde ? Et à l'inverse, certains ne verront l'intérêt de lunettes numériques. Moi, j'aime bien ce terme de lunettes numériques plutôt que lunettes analogiques. Au contraire, pour eux, seul l'écran, la réalité augmentée, aura du sens. Donc, il y a un truc qui se passe. Mais le problème sociétal, entre guillemets, pour employer des grands mots, n'est toujours pas réglé. Est-ce que ce truc-là va se vendre ? Est-ce qu'il va trouver son public ? Est-ce que ça va intéresser des gens au-delà du cercle de geeks ou des excités qui veulent aller filmer tout le monde dans la rue. Et également, l'acceptabilité. Et là, on risque de retomber sur les problèmes qu'a connu Google avec les Google Glass, de gens qui vont, on en a déjà parlé ensemble plusieurs fois, qui vont se faire taper parce qu'on a l'impression qu'ils filment tout le monde. Etc.
Et là, c'est, d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'il y a avec les lunettes méta. Hein. Il y a des demandes de régulation plus stricte parce qu'il y a plein de débordements. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Des gens qui filment d'autres personnes contre leur gré et qui ensuite leur demandent d'être payés pour supprimer les vidéos. Vu que tout n'est pas encore encadré par la loi, même si, par exemple, le droit à l'image et le RGPD en France couvrent déjà pas mal de choses, c'est vrai que ça pose plein de questions. La technologie avance assez vite. Les usages, on sait qu'il y a forcément des gens qui vont abuser des capacités technologiques. Et toujours derrière, il y a cette question de et la vie privée, qu'est-ce qu'on en fait, quoi.
Ouais. Et le problème, ce serait qu'on en vient à critiquer le produit lui-même. Ouais. Parce que non, c'est un truc génial. Par exemple, pour du reportage, c'est des applications professionnelles, mais des reporters, des médecins, moi, on me parlait aussi d'agriculteurs, par exemple, dans les champs qui ont les mains prises et ils ont besoin à la fois de montrer, de filmer, de communiquer, d'interroger une IA pour avoir des trucs et tout. C'est fantastique. Mais il ne faudrait pas que ce soit pourri par quelques illuminés qui vont faire n'importe quoi, en fait.
Je pense qu'il va, ça explosera dans le grand public quand les prix vont baisser déjà. Donc il va falloir.
Oui, bien sûr, mais ça va baisser.
Quand on aura aussi peut-être, on pourra. C'est un peu comme pour aussi les montres connectées. Quand on pourra un peu plus se passer du smartphone, peut-être que ça sera pas juste un accessoire, mais ça deviendra un ordinateur qu'on peut avoir sur soi plus facilement. Donc prix, performance et puis les usages. Effectivement, quand on aura des usages où on aura beaucoup plus de liberté grâce à ces produits-là, peut-être qu'on y réfléchira aussi, mais ça va demander une courbe d'adoption de toute façon, parce qu'on n'est clairement pas au produit fini. Là, on est aux premières étapes de quelque chose qui peut être hyper intéressant à l'avenir et que pour l'instant, c'est balbutiant. C'est encore assez limité. Prendre des appels, répondre à des appels, recevoir des résumés de notifications de messages qu'on a reçus, c'est bien, mais entre avoir ça sur les yeux et puis au bout d'un certain temps, parce que là, il y a la question de l'autonomie aussi, on ne sait pas au bout de combien de temps il faut recharger.
Et on n'a pas eu d'infos là-dessus. Hein.
Non, il n'y a pas eu d'infos
sur l'autonomie, sur le prix. Ouais. On sait que ça devrait sortir à l'automne prochain.
C'est ce qui a été annoncé,
on ne sait même pas si c'est les deux modèles qui sortiront à l'automne prochain ou que le premier modèle sans écran. C'est très flou, en fait, tout ça.
Ils ont fait du teasing. Ils ont relancé un teasing.
Ils font sans doute un event spécifique.
Oui, j'imagine.
Ou alors, ils annonceront ça de manière plus sérieuse avec les folds et les flips.
Ils ont dit qu'ils allaient profiter des mois à venir pour distiller un peu plus d'informations. Donc, je pense qu'ils ne vont pas s'en priver pour entretenir le buzz, pour nous tenir en haleine aussi, en disant « Ah, regardez, il y a un peu plus de d'informations. Ouais. » Il y a aussi Qualcomm qui a des plateformes techniques spécifiques à ce genre de produits qui vont monter en puissance, en performance. Il y a plein de choses qui jouent, je pense. Ouais.
Les folds et les flips, il ne faut pas se tromper. Hein. Ce n'est pas les folds et les flops.
Mais espérons que pour eux, ce ne soit pas un flop. Parce que si... c'est vrai que quand la machine Samsung se met en route, en général, c'est quand même assez impressionnant. Hein, parce que Samsung, c'est quand même l'un des leaders dans l'électronique grand public. Mais rappelez-vous, typiquement, leur bac connecté, ça a été un flop, là. Assez costaud, hein, quand même. Hein. On se demande d'ailleurs pourquoi et comment ils ont pu sortir un truc comme ça, d'une complexité à mettre en vente, parce qu'évidemment, il y avait plein de tailles, plein de modèles, enfin, c'était un truc... Puis bon, c'était pas très beau, hein, entre nous. Mais enfin, tout ça, intéressant, on va voir comment ça se passe. On referme la parenthèse hardware pour revenir sur l'événement donc d'hier de Google. Je le disais, de l'IA à tous les étages. Qu'est-ce qui t'a frappé, toi, Jérôme, sur cette keynote?
Franchement, on a du mal à suivre. Hein. Ça part dans tous les sens.
Mais c'est dingue, c'est dingue. Ouais. C'est dingue. Il y a eu plein de choses.
Mais il y a quand même des trucs super intéressants. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le Gemini Omni, qui va donc. Alors, c'est même, je crois que c'est le modèle Omni Flash, exactement, va permettre de faire un pas supplémentaire vers la génération d'images par intelligence artificielle. Et c'est un pas qui est spectaculaire. C'est-à-dire que, bon, on connaissait les images promptées, les images fixes promptées. Tu dis à l'IA, tiens, génère-moi une image de ci, de ça. Ensuite, les vidéos promptées. C'était Sora de OpenAI, mais bon, qui est en train de disparaître.
Oui, fais-moi un Jérôme Colombin sur un surf avec un chapeau.
Voilà,
là, c'est parti.
Exactement. Entre-temps, c'était glissé Nano Banana, déjà de Google, qui permettait de retoucher des photos. Donc, tu balances ta photo, tes images, tes photos de vacances, mm-hmm. et tu lui dis, tiens, je sais pas quoi, rajoute...
Des... Enlève-moi la belle-mère.
Celui-là à droite.
Enlève-moi la belle-mère, s'il te plaît.
Ils sont vécus.
Et là, eh bien, avec OmniFlash, eh bien, on va pouvoir retoucher des vidéos par intelligence artificielle. Donc, tu fais une vidéo tout à fait normale avec des vrais êtres humains dans le monde réel. Et puis ensuite, sur ton smartphone, tu lui dis, tiens, ajoute-moi des tigres, ajoute-moi une tempête, ajoute-moi ce que
incroyable.
Tu veux.
Et, avec un réalisme, encore une fois, avec qui est bluffant.
Hallucinant. Bon, en tout cas, si on en croit les démos qui ont été faites hier.
Et sachant qu'on peut aussi, ce que je trouve assez bluffant, c'est qu'on lui donne une vidéo et on lui demande ensuite d'extrapoler, par exemple, une rotation autour de la personne. Et il va le faire en changeant de style de la vidéo. Donc passer du photoréalisme à un style BD. Enfin, une fois encore, se pose la question sur quoi tout ça a été entraîné, mais c'est assez bluffant de voir la puissance créatrice qui est mise entre les mains de ceux qui payent les abonnements pour l'instant, et de voir le potentiel. Alors après, c'est effectivement, ça remet en question plein de choses sur que deviennent les métiers des créateurs qui faisaient ça pour vivre avant. Alors est-ce qu'ils vivaient est-ce que des particuliers allaient les voir en disant j'aimerais bien que vous fassiez une vidéo comme ça. Je pense pas. Mais effectivement, ouais, mais c'est l'onde de choc qui
va bouleverser les choses. Si les pros s'emparent de cet outil qui va devenir de plus en plus professionnel, là ça peut faire mal.
Bien sûr.
On va réouvrir
ce débat, mais ça va bouleverser beaucoup de choses.
Ça va bouger, ça c'est clair.
C'est évident.
Omni donc, intéressant. J'ai vu qu'il y avait aussi un petit c'est Spark je crois
Jimmy Spark
qui est un peu le open close gentil
sous contrôle de
Google
avec une muselière,
c'est ça. Nous rappeler ce que c'est?
Open close, c'était un agent qui est donc capable de réaliser des tâches pour vous automatiquement. Où il dit, par exemple, on parlait tout à l'heure, classe-moi mes documents sur mon disque dur, répartis-moi, voilà.
Oui, prie-moi mes photos.
Voilà, là, évidemment, on est dans la galaxie Google, donc Spark va être capable de surveiller les mails, va être capable de gérer les Google Docs, etc. etc.
Et ouais, en fait, intervenir vraiment
Les fichiers qu'on a, mais aussi on pourra lui confier des tâches d'organisation, lui demander de créer quelque chose, une to-do list interactive, et on peut lui lancer plusieurs tâches comme ça, et on pose son téléphone, on l'éteint, enfin on coupe l'écran, on va faire autre chose, et il travaille en fond comme ça pour nous.
Et qu'est-ce qu'il peut faire par exemple? Parce que tu vois...
Il peut détecter les fraudes bancaires, des fraudes à la carte bancaire en analysant...
Donc
il faut que tu lui donnes tes identifiants bancaire.
Il faut
une prise de sang d'ailleurs pour que ça fonctionne.
C'est pour ça que j'ai parlé d'environnement Google, c'est que la puissance des outils Google n'a de pareil que quand on est complètement dans l'univers Google ou quand on confie les clés du camion à Google.
Et on donne déjà beaucoup d'infos à Google.
C'est d'ailleurs d'une certaine manière, c'est assez amusant parce que c'est grâce à ces informations-là qu'ils ont pu entraîner aussi bien leurs IA jusqu'à présent. Donc là, on leur en donne encore plus. Qu'est-ce que va donner le futur? Je ne le sais pas, mais
heureux avec ce qu'il nous donne en retour.
Tout à fait. Tant d'amour et tant d'IA.
Ça veut dire que Spark va pouvoir fouiner dans tes docs, dans tes mails.
Mais ça, Gemini le fait déjà aujourd'hui.
Oui, c'est sûr.
Sauf que là, il en tire des actions, en fait.
Il peut modifier des choses.
Là, j'ai 45 mails, 30 PDF, etc. Est-ce que tu peux me faire... un résumé et puis une note et éventuellement de m'écrire un discours.
Et puis l'envoyer
à Bidule.
Et puis traiter les réponses. Voilà.
Et ce qui est génial, c'est qu'on le dit comme on vient de le dire, de manière, soit en l'écrivant, soit de manière vocale. Et selon les démonstrations, toujours, il faut prendre des pincettes, il est capable de comprendre que les instructions... sont reliés à différentes tâches. Il va organiser les tâches automatiquement et s'y atteler ensuite jusqu'à la fin, il n'a pas besoin de nous, ou à un moment, il dira « là, j'ai besoin que tu valides quelque chose et dans ce cas-là, il faudra regarder de quoi il s'agit et répondre à l'agent.
Ouais. »
Je crois qu'il y a aussi un truc sympa sur le shopping. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Ouais. Universal
oui,
Card.
Ouais.
En fait, il va se rendre compte. Il va les comparer pour toi, si tu veux. Par exemple, je sais pas moi, une machine à café. Ouais. Il va aller voir sur le web s'il trouve moins cher, etc.
Enfin, ouais. Et il prendra aussi en compte le fait que, par exemple, si on a une carte de fidélité dans un magasin qui permet d'avoir un abattement, il va dire dans ce magasin, il y a cette promotion-là, mais en plus avec la carte, ça fait X% en moins. Et voilà. Donc c'est alors évidemment, c'est toujours dans le périmètre. Du shopping Google, bien sûr.
Il y a une histoire de panier intelligent aussi où tu peux aller faire des courses sur différents marchands. Lui, il réunit tout ça et il peut même analyser, par exemple, t'achètes un ordinateur, enfin, je sais pas quoi, j'allais dire un ordinateur ou une imprimante et ils vont pas être compatibles. Non, je parle d'un temps qui n'existe plus, heureusement. Mais vous voyez ce que je veux dire.
L'exemple qu'il donnait pour la keynote, c'était par exemple une carte mère et un processeur.
Ouais, voilà.
Et dire, bah là, en fait, c'est pas la bonne génération de la carte mère, n'a pas le bon socket.
C'est un assistant shopping, quoi.
Donc,
c'est un personal shopper.
Il y a un côté.
Multiplateforme.
Voilà. Et ça. c'est assez bluffant. Et il y a aussi derrière ça, ils sont en train de préparer l'avenir, parce que Google est toujours en train de préparer l'avenir. Ils ont proposé, en tout cas, ils ont annoncé un protocole pour que les agents puissent réaliser des achats pour nous. Mmh. Donc, effectivement, suivre par exemple, l'exemple qui était donné, c'est je veux mettre 10 euros dans, je ne sais pas quoi, un truc quelconque.
Une batterie.
Mais je ne veux pas mettre plus. Et puis, je veux qu'il soit disponible pour telle date. Et en fait, l'agent va chercher. Et s'il le trouve en dessous de ce prix-là, il va être en capacité de l'acheter sans validation parce qu'on lui a dit maximum, tu mets 10 euros.
OK.
Voilà. Et derrière, il y a d'autres éléments, mais Google est clairement en train de dire, regardez, moi, j'ai développé un protocole, les gars, les autres, les autres e-commerçants, si vous voulez vous en saisir, allez-y. Et évidemment, c'est un avantage pour Google sur le long terme.
Après, on joue quand même, Jérôme, sur l'ambiguïté de Google, parce que Google, c'est aussi les liens sponsorisés, c'est les marques qui payent Google. Comment ça va se passer dans le shopping, tu vois ? On reprend l'exemple de Pierre, ta batterie à moins de 10 euros. Si en plus, le fabricant de cette batterie a une grosse campagne de pub sur Google, tu vois, enfin, ça pose plein de questions.
Qui se posait déjà sur les liens sponsorisés, sur ce genre de choses, déjà dans l'univers de Google. Sauf que là, il y a effectivement...
C'est toi qui décides, finalement, tu vois, t'assumes, en fait, le fait d'acheter quelque chose qui a été sponsorisé. À la limite, tu t'en fous. Mais là, si tout se fait automatiquement, ça permet d'avoir une espèce de...
Oui, mais ils vont peut-être se...
De zone grise, quoi.
Peut-être se cannibaliser un petit peu eux-mêmes, mais ils trouveront sans doute d'autres leviers de monétisation. En revanche, là où ça va faire très mal, c'est tous les gens qui vivent du trafic. C'est tous les éditeurs de sites web qui commencent à regarder ça avec une panique. Le système AI Overview là, qui fait des résumés d'actu pour l'utilisateur, c'est formidable. Bon, c'est pas disponible en France.
Hein. AI Mode n'est pas disponible non plus.
Je l'ai utilisé plusieurs fois aux États-Unis.
C'est super.
C'est génial.
Bien sûr.
Génial.
Ouais.
Mais sauf que pour les éditeurs de sites, c'est une catastrophe.
Après, tu as des liens quand même qui apparaissent.
Oui, tu as des liens.
Mais c'est vrai que tu es moins enclin à cliquer sur ces liens parce que tu as l'info.
Ouais. Mais après, la foi est mise en forme déjà.
On peut pousser le raisonnement très loin. On voit bien aussi qu'il y a du trafic qui est, je ne vais pas me faire des amis, mais qui est indu. Quand on te remonte des infos du genre « Attention, ce paquet de céréales est retiré du marché. » Ah bon, lequel ?
Tu cliques dessus.
Et là, tu cliques dessus. Et il y a une espèce de business qui s'est créé autour de ça. Je prends cet exemple parce qu'il m'a frappé dernièrement. Tu vas sur le site gouvernemental qui traite tous les machins, tu fais un petit papier tous les deux jours, et hop, ça te fait du trafic. Mais franchement, c'est se moquer du monde.
Oui, c'est clair.
Déjà, si c'est une vraie info de service public, tu donnes l'info tout de suite.
Et c'est vrai que, toi, tu es en plus dans le cœur du réacteur, si je puis dire, parce qu'en tant que rédacteur en chef adjoint de BFM Tech, tu es confronté à ça,
cette intermédiation, en fait.
L'intermédiation, le fait de faire de l'audience malgré tout avec des titres, il faut des titres accrocheurs, mais ne pas aller trop loin en disant... Enfin voilà, quoi. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de titres qui sont ambigus, qui donnent envie de cliquer. Et puis quand tu cliques, en fait, derrière, il n'y a rien.
Ce continent refuse la dernière innovation d'Apple.
Oh, mais qu'est-ce que c'est ?
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que ça montre, cette histoire de titres, etc., c'est que ça montre à quel point Google, et ça va être encore plus important dans les années à venir si ça continue comme ça, est en fait tellement devenu la porte d'entrée dans l'information qu'il dicte ses lois et il expose en fait alors pas ce qu'il veut, mais ce que ces algorithmes veulent. Par exemple, effectivement, il n'y a aucune raison que ce genre de clickbait, ces sites, qui sont souvent d'ailleurs générés par l'IA maintenant, se retrouvent à avoir des papiers sans aucune valeur ajoutée en tête de référencement.
C'est sûr. Mais attends,
alors qu'il y a des médias, oui. Alors, on ne va pas dire que tous les médias sont sérieux,
mais je n'aurais
pas
cette prétention. Google, mais bien sûr, hyper prescriptif.
Ouais. Hein, mais tu vas sur Google Actu, par exemple, tu vas dans la rubrique science, enfin nouvelles technologies, tu n'as que des liens sponsorisés.
Ouais.
En
il y a beaucoup de
tu n'as plus d'actualité.
Ouais. Bah, ça arrive, mais oui.
Mais c'est grave.
Le truc
est très grave.
C'est dévié. Le jouet était cassé.
Le jouet était cassé.
Qu'est-ce que tu veux ?
Mais justement, enfin, je rebondis sur là. On parle de l'effet de la recherche Google sur le shopping. Mais ils ont aussi présenté. Et pour moi, alors c'est vrai que la mise à jour de l'application Gemini est sympa, un peu plus fluide, un peu plus joli, etc., plus interactive. Mais je trouve que ce qu'ils ont annoncé au niveau de l'évolution de Google Search, donc leur fonds de commerce historique, hein, c'est vachement plus intéressant. Et c'est en fait, alors effectivement, en France, on n'a pas les AI Mode, on n'a pas les AI Overview, donc on ne se rend pas compte du pas qu'on a déjà
nous, on reste au Google de 2010, quoi, finalement.
Voilà, oui, on a la barre de recherche.
Non, mais c'est vrai.
Et là, en fait, on aura la possibilité de poser des questions beaucoup plus longues en langage naturel, avec une fenêtre plus large. On pourra la dicter également, ça ne change pas beaucoup actuellement. Mais après, le résultat sera, entre guillemets, un peu personnalisé. Par exemple, ils ont donné un exemple sur explique-moi ce qu'est un trou noir. Et ils ont intégré Antigravity, donc il y a un logiciel de vibe coding, donc, c'est-à-dire de génération de code informatique qui est à disposition du grand public et des pros. Voilà, ils l'ont intégré dans Google Search pour que, en fait, il y ait par exemple des animations qui soient créées pour expliquer quelque chose, des petites vidéos, des images.
Ah
en
oui,
fait, l'IA générative.
Et tu restes dans l'univers Google.
Voilà, et en fait,
tu vas pas aller voir cette animation sur un site web.
Voilà, et en fait, tout est là, en fait.
Ouais,
on parlait de l'intermédiation tout à l'heure. En fait, c'est un peu la fin de l'intermédiation. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'ils vont
une nouvelle étape.
Est-ce qu'ils vont mettre des barrières ? Parce que je pense, enfin, pour en avoir parlé avec des représentants de Google, ils ont conscience que l'IA générative, elle régénère en fait ce qui a déjà été écrit. Hein. Elle n'invente pas de choses. Donc, à un moment, il faut qu'il y ait des gens qui gagnent leur vie à écrire l'information. Autrement, il y aura pas de matière pour l'IA. Mais effectivement, quel point d'équilibre trouvé, et avec cette nouvelle étape où on a un résultat complètement fou, hyper séduisant, avec une vidéo très claire, une animation super chouette, ou une jolie photo générée par l'IA, on se retrouve à avoir un résultat de recherche qui est plus joli qu'un site. En fait.
Ouais, c'est clair. Alors, il y a énormément d'autres choses sur cette Google I.O. J'imagine que tu en parles évidemment sur BFM Tech. Jérôme, toi aussi, tu vas sans doute évoquer le sujet. Et tu as peut-être déjà évoqué le sujet dans Monde Numérique. J'aimerais qu'on l'enchaîne sur un autre rendez-vous qui, lui, aura lieu le 8 juin, donc c'est très bientôt. Hein. C'est, on va dire, presque l'événement miroir, mais cette fois-ci organisé par Apple. C'est la WWDC. Et de la même manière, Apple convie des centaines et des centaines de développeurs, alors soit en physique, soit en vidéo, etc., pour découvrir leur stratégie pour la prochaine génération d'iOS. Donc, voilà, c'est quand même assez intéressant. Enfin, iOS, mais aussi macOS,
oui, enfin, tout ce qui est logiciel.
Tout l'écosystème soft d'Apple. Et cette année, cette WWDC va être d'autant plus intéressante qu'elle va être un peu la WWDC de tous les dangers d'Apple. Ils vont être obligés, véritablement, de réparer tout ce qu'ils ont raté ces deux dernières années. Ouais. L'IA, bien évidemment, en premier lieu. Hein, bon, on ne va pas parler du Vision Pro, parce que le Vision Pro, ça y est, c'est on va dire, c'est de côté.
Oui, tu le passes par perte des profits, Vision Pro ?
Non, mais on ne sait pas. Peut-être que dans quelques années, ça reviendra. Ouais. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on voit que le soufflet est retombé. Et tu es d'accord, Jérôme ? Ça va être quand même assez un rendez-vous à suivre, parce que je pense qu'il va être très intéressant. Enfin, j'espère.
Bah oui, et notamment sur l'intelligence artificielle, parce que ça renvoie à la fameuse keynote de 2024 où ils avaient annoncé Monts et Merveilles pour ensuite rétropédaler à toute vitesse en disant le truc, c'est que tout ce qu'on vous a promis, c'est pas du tout prêt. C'est là où il y a même eu des purges en interne. Enfin,
ça et puis ça leur,
terrible,
ça leur, leur vaut une action en justice aux États-Unis d'ailleurs.
Tout à fait. Ouais.
En plus.
Ouais, ouais, 250 bon. millions, je crois, enfin, qui devront partager à des utilisateurs qui ont fait une class action. En fait,
c'est fou. C'est
en disant, ouais. on vous rendez compte, vous nous avez menti, etc.
Ouais, vous avez promis quelque chose et on ne l'a pas. Quoi.
Mais d'ailleurs, c'est fou cette histoire parce que c'est, je crois que c'est la première fois qu'Apple
va trop loin.
Ouais, va trop loin.
C'est le marketing.
Parce que là, c'était toutes les vidéos de 2024, c'était du fake, en fait. C'était des scénarios d'IA qui n'existaient pas, puisque deux ans après, ils n'étaient pas sortis. Donc, ils ont imaginé des trucs.
C'est le but vers lequel, c'est l'objectif vers lequel ils veulent aller. Hein. Alors, ils ont essayé, en plus, avec le partenariat avec OpenAI, de compenser un peu, de recoller les morceaux, mais on l'a tous utilisé en termes d'expérience utilisateur, c'est ce qui est pire, je pense. Interroger OpenAI via Siri.
Pas optimal, on va dire, oui.
C'est, voilà, c'est affreux.
C'est pas terrible. D'ailleurs, pas de parenthèse, OpenAI veut se débarrasser de ce partenariat, visiblement, parce qu'ils sont très vexés du fait que ça n'a pas rapporté beaucoup d'argent, alors qu'ils imaginaient que ça pouvait être la poule aux œufs d'or.
Ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir.
Parce que, et Sam Altman le dit, il dit, nous, on a implémenté ça super bien dans l'univers Siri, etc., pour que les gens puissent l'utiliser, mais en fait, Apple n'a pas à aucun moment n'a poussé en fait cette innovation. Et puis surtout, cerise sur le gâteau, un an après, il passait un accord avec Gemini, tu vois. Donc,
Il est possible aussi que... Alors, il y a peut-être aussi, du point de vue d'Apple, il y avait aussi une vraie volonté de préserver la vie privée. Hein, ça, il avait vraiment insisté avec la possibilité même d'utiliser ChatGPT de manière anonyme. Et il est possible qu'il y ait eu des inquiétudes. Alors, d'après Mark Gurman, hein, le journaliste de Bloomberg, qui est assez bien informé, qui disait qu'un des points sur lequel Apple voulait être intransigeant, c'était la protection des données, et que OpenAI n'était peut-être pas super, pas au niveau en tout cas, selon eux.
Oui, mais bon, avant de signer ce partenariat, tu blindes ton truc.
Oui, bien sûr. Mais après, je pense que... j'ai un peu l'impression que Apple était aux aguets, était un peu au dos au mur. Ils se sont dit, bon, hop, OpenAI, ça me permet de mettre un mot-clé, de mettre un peu de service, de mettre un petit peu d'intelligence dans notre OS, parce qu'on avait fait une promesse, on n'y est pas arrivé, donc là, on propose quelque chose.
On va mettre un gros pansement, un sparadrap sur un truc qui se voit quand même.
Voilà, mais bon, c'était un pis-aller, quoi. Voilà. Et puis, effectivement, là, l'arrivée d'un accord dont on parlait tout à l'heure avec Google devrait changer les choses, ouais.
Bah, c'est ça qu'on attend maintenant. Oui. C'est... Parce que la promesse, ce n'est pas de pouvoir interroger ChatGPT via Siri, via un fax, via un mail. C'est de pouvoir converser avec un super Siri qui serait enfin à la hauteur et qui sera donc boosté, cette fois, on le sait, par Gemini. Ouais. Mais qui, Gemini, n'apparaîtra pas en tant que tel, en fait. Ils vont récupérer la techno. Ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est que Google a quand même lancé son Gemini Intelligence. Qu'ils ont même piqué le nom d'Apple avant de fournir la technologie à Apple. Mais est-ce qu'on va être, est-ce qu'on en aura pour notre argent avec cette keynote ? Ça, c'est la question. Ou bien est-ce qu'on va être déçu ? Ce sera difficile à dire sur le coup parce qu'ils vont nous en mettre plein la vue. Ouais. Mais il faudra voir après si les promesses sont tenues.
Mais ils vont être scrutés parce que quels vont être les délais aussi ? Est-ce que l'implémentation de Gemini dans Siri est prête ? Est-ce que ça va arriver là avec l'iPhone 18 ? Est-ce que ça va arriver dans les bêtas avant ? Il y a plein de questions en fait.
Il y avait en début d'année, il y avait une rumeur de planning d'arrivée justement de Siri Gemini fin de printemps. Finalement, c'est pas arrivé, donc on peut se dire que ils ont fait en sorte que ça sera
avec iOS 27.
Prêt pour les bêtas et que pendant l'été, il y aura une utilisation qui montera en charge un petit peu et que ça sera dans les versions de iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 qui sortiront à l'automne. Ouais. On peut l'espérer évidemment. Hein. Et ils ont tout intérêt à le faire en fait. Et une fois encore, d'après les rumeurs et petites fuites d'informations, ils sont en train d'essayer de. Enfin, Apple est en train de mettre de l'IA un peu partout. Alors, ils ont. Enfin, quand je dis ça, il faut peut-être rappeler qu'ils ont commencé à mettre de l'IA dans iOS il y a très très très
bien
longtemps.
Sûr,
le machine learning, ils ont été parmi les premiers à miser dessus. Mais là, effectivement, l'IA générative, c'est là qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis, notamment parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'ensemble de données pour faire de l'entraînement.
Parce que aussi, l'IA générative souffre de problèmes insurmontables à ce jour et qui sont inacceptables pour Apple. C'est les hallucinations, l'absence de les possibilités d'erreurs énormes, Et puis, la nécessité d'accéder aux données en profondeur. Donc, tout ça, pour ensuite les remonter sur des serveurs. Ouais. Et tout ça, ça ne colle pas avec la philosophie Apple.
Ouais, c'est pour ça que là, dans le cadre justement de ce partenariat avec Google, ils vont utiliser... Alors, dans quelle mesure ça sera leur serveur c'était comment les... Private Compute Server, je crois. Non, c'est PCC, je ne me souviens plus ce que c'est. Enfin, c'est leur des serveurs avec, oui, oui, oui. Où ils avaient annoncé, voilà, il y aura même des secures enclaves, tout est sécurisé, etc. Est-ce que ça sera vraiment ces modèles-là qui feront tourner Gemini? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont annoncé que ça serait sur des serveurs maîtrisés par Apple, avec un vrai centre d'intérêt posé sur le respect de la vie privée.
Ouais, c'est pas un Gemini connecté à Google.
Non, c'est voilà, ça, hein. Ça sera vraiment un Gemini, peut-être presque en marque blanche, contrôlé par Apple.
Ouais. Ouais. Et alors, c'est là où moi je pense qu'on n'est pas quand même au bout de nos surprises et Apple pourrait vraiment marquer des points. Parce que justement, la carte qu'ils ont pour respecter cette exigence sur la protection de la vie privée, etc. et tout, ça veut dire notamment faire de plus en plus de traitements en local. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais on dit qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont les meilleures puces pour faire de l'IA générative, y compris à l'intérieur d'un smartphone aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, de l'inférence en tout cas.
Aujourd'hui, on est d'accord, ça ne sert à pas grand-chose.
Mais non, mais demain, c'est eux qui seront les mieux armés. Ils ont le moteur. Si tu mets le carburant, c'est parti. Hein. C'est eux qui.
Ouais, oui, voilà. Mais après, la puissance. T'imagines la puissance qu'il faut pour faire tourner un Gemini en local qui va répondre à la plupart de tes questions.
Bah, pas à tout, justement. Là où il faudra.
Complexifier le truc, etc. Tu vois. Oui, il faut que tu aies plusieurs niveaux.
Et pour tout ce qui concerne ta vie.
Oui, mais
toi,
c'est déjà un peu le cas. Même sur les smartphones Android, on voit bien, il y a certaines fonctions qui sont en local.
Oui, la trad, des choses comme ça.
Ce qui demande des petits modèles qu'on arrive à vraiment bien réduire et à mettre en local, et puis dès que ça devient un petit peu plus sérieux, ben on va interroger le cloud, mais c'est pas insurmontable, ça. Enfin, pour moi oui, mais pour un ingénieur non.
Donc frottons-nous les doigts et les mains. Voilà. Ça va être sympa le 8 juin. Et puis il y a un autre chapitre intéressant lors de cette keynote, c'est un peu la passation de pouvoir.
Tout à fait.
Entre eux.
Ben, ça serait hyper symbolique. Ouais.
Voilà, Tim Cook qui va prendre du champ.
Ben, ça sera sa dernière WWDC en tant que CEO.
Voilà, c'est ça.
Qui va l'ouvrir cette conférence?
Ça va être intéressant. Est-ce que c'est Tim Cook qui est toujours le boss?
Tim, jusqu'au premier... les deux mains dans la main.
Jusqu'au 1er septembre, ouais. C'est encore Tim Cook, tu vois.
Mais est-ce qu'ils vont... Peut-être qu'il ouvre et que John Ternus ferme.
Voilà, mais comment va être introduit John Ternus, qui va être le nouvel incarnant finalement d'Apple? Ça va être hyper intéressant. Est-ce que avec son arrivée, il y aura aussi peut-être un nouveau vent, peut-être d'innovation, ou est-ce que finalement ça va rester, tu vois, dans la continuité? Ça va être intéressant de voir si Ternus veut marquer un petit peu son territoire en ayant une communication un peu différente.
Mais il ne le fera pas le premier jour. Hein.
Non.
Et sachant que là, on parle d'Apple, hein, c'est un gros, gros bateau. Donc, les changements que lui va vraiment implémenter, ils vont arriver 2038, beaucoup plus tard. Et là, en fait, ça va être... Je pense qu'Apple, là-dessus, est très, très intelligent. Et je suppute que les décisions... qui ont été prises dernièrement par Tim Cook, ont été aussi validées, ou en tout cas...
Et puis Ternus était le patron du hardware, donc ça veut dire que finalement, il a dû insuffler aussi depuis plusieurs années le futur du hardware chez Apple, espérons-le, qu'il ait pu aussi...
Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire qu'on a à nouveau un homme vraiment de produit, qui est ingénieur de formation, donc qui a aussi une vision, qui va avoir une vision intéressante du logiciel, beaucoup plus main dans le cambouis, on va dire, et donc avoir... une personne comme ça, alors que les grands enjeux de l'avenir, on en parlait, c'est les lunettes numériques ou intelligentes, tu les appelles comme tu veux, qui sont le prochain facteur de forme.
Ouais, c'est pas mal, lunettes numériques.
Le prochain facteur de forme qui va peut-être nous détacher de nos smartphones. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui ait ce profil-là pour y arriver, sachant qu'effectivement, il y a matériel et IA, c'est les deux trucs à équilibrer.
Les deux mamelles de la tech.
C'est les deux défis à mener à bien dans les années à venir. Ouais.
Et on verra s'il est charismatique, s'il s'en sort bien sur ça. En tout cas, il sera comme les autres.
Tim Cook n'était pas très charismatique au départ, il s'en tient super bien maintenant.
Oui,
enfin, bien mieux. Enfin,
De toute façon,
il prend.
Non, mais il a eu l'intelligence de dire.
Moi, je suis Fallon non plus.
Non, mais il a réussi à dire voilà, moi, je ne suis pas Steve Jobs.
Moi, ça ne me déplaît pas.
Non, mais il est arrivé à dire moi, je ne suis pas Steve Jobs, je ne vais pas tenir en allée à une salle, je ne vais pas faire mes blagues. Sûr, etc. Je vais jouer la carte de l'équipe, je distribue la parole, je mets en avant l'équipe et c'est hyper intelligent.
Il sera coaché comme les autres, donc il se tiendra bien comme il faut, les pieds qui ne bougent pas,
avec les mains qui font comme ça,
les coudes serrés, les mains comme ça, ils sont tous comme ça.
Hein. Voilà.
Mais c'est la meilleure position pour faire une conférence.
Est-ce qu'ils vont garder encore, tu sais, les 39% plus puissants que le précédent modèle ?
Forcément.
Ouais, ouais. Et oui, ça fait partie de l'ADN d'Apple. Bah écoutez, voilà, il y a plein de choses qui se profilent là dans les jours qui viennent. Autre rendez-vous à suivre la semaine prochaine. Voilà, mon petit doigt me dit que ça va bouger du côté de chez Amazon aussi. Hein. On va pas trop en parler,
ça
mais
on risque
d'évoquer ce sujet très très bientôt. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, c'était top.
My pleasure.
Jérôme, quel plaisir de t'avoir dans De quoi je me mail, vraiment.
Bah écoute,
un vrai plaisir, merci d'être là.
Alors que moi, non, d'accord.
Ah, oui. Non, mais toi, Pierre, évidemment, mais toi, t'es là.
Et il est parti en claquant la porte.
T'es résident, t'es différent. Pierre Fontaine, rédacteur en chef adjoint donc, de BFM Tech, et Jérôme Colombin, donc, de Monde Numérique. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler d'Oppo. Tiens, quelle est la stratégie d'Oppo dans le monde du smartphone ? On va évoquer tout ça avec mon invité dans un instant. Et puis, on retrouvera en module bonus Pierre et Jérôme. Vous le savez, c'est les petites minutes supplémentaires que je vous propose uniquement, exclusivement sur le podcast audio. Et on va parler d'une initiative très intéressante de la part de Jérôme, justement, qui veut nous faire des podcasts. Quelle drôle d'idée.
Non, mais vraiment non,
ça marchera jamais les podcasts.
Non,
on le sait.
Je ne sais même pas ce que c'est.
Mais voilà. Allez, à tout de suite et merci d'être là en tous les cas.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà la deuxième partie de votre De quoi je me mêle. Et comme promis, on va maintenant s'intéresser à un constructeur de smartphones originaire de Chine qui fait son comeback. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein, Oppo est véritablement aujourd'hui bien installé hein, dans l'univers du smartphone français. Mais il y a eu, on va dire, quelques vagues, quelques secousses. Et on va en parler avec notre invité Jean-Benoît Fossa qui est là. Bonjour Jean-Benoît.
Bonjour François.
Vous êtes directeur commercial France chez Oppo et on est très heureux de vous accueillir pour justement découvrir les nouveautés Oppo. Et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal parce que dans l'ADN d'Oppo, c'est l'innovation, vraiment, avec des trucs qu'il n'y a pas ailleurs. On va en parler dans un instant, mais là vous êtes avec un smartphone qui a une espèce d'objectif physique à côté qui est monstrueux, j'ai jamais vu ça. Mais peut-être auparavant, expliquer les secousses que j'évoquais précédemment avec Oppo. Oppo qui est arrivé en France en 2018 et qui est parti, j'allais dire un peu comme un voleur, mais d'une manière un peu précipitée et abrupte, en 2023. On n'a pas trop compris ce qui s'était passé, d'accord ? Et j'aimerais qu'on y revienne, après on tournera la page, mais je pense que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent qu'on revienne sur cette période un peu complexe.
Ok, oui, pas de problème, évidemment. Déjà, j'étais de la première aventure aussi d'Oppo, donc je connais bien l'histoire.
Oui, donc vous étiez au cœur du truc. Donc,
j'étais au cœur. Donc en fait, le sujet, c'est qu'il y a eu en fait, des poursuites judiciaires de la part de Nokia sur des sujets de brevets, sur le marché, en fait, sur le territoire allemand et sur le territoire français. En Allemagne, en fait, la décision de justice a été favorable à Nokia. Donc en fait, Oppo a été obligé de sortir du marché allemand. Et comme à l'époque en France, en fait, c'est un distributeur qui distribue en fait les produits d'Oppo. Le risque était trop important pour lui de rester sur le marché avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Lui qui était responsable.
Tout à fait responsable de la distribution, donc totalement de tous les investissements qui étaient faits en France. Donc c'était une entreprise française qui était gérée par un
investisseur. Voilà. S'il y avait cette décision juridique concernant les brevets, c'était lui qui trinquait en fait.
C'était lui qui
était pas Oppo.
Tout à fait. C'était lui qui trinquait directement. Donc en fait, il a préféré anticiper la décision de justice et donc partir. Donc en gros, en juillet 2023, Oppo est parti du marché français. Alors la petite histoire est que la décision de justice a été favorable à Oppo en France, mais bon, le risque était trop gros, donc
combien
il a décidé
après
de quasiment au moment où on a fermé.
Waouh, ça c'est, voilà. C'est vraiment galère. Hein,
c'est alors fermer une entreprise c'est galère, surtout quand on avait des positions quand même assez fortes sur le marché français.
Ouais, donc et puis vous étiez en pleine phase de conquête. Hein,
tout à fait, ouais.
Vous investissiez beaucoup en communication, dans des événements, enfin Roland Garros, etc. Enfin, je veux dire, ça a été un choc, j'imagine, pour vous. Parce que vous êtes les premiers visés.
Évidemment.
Quand on vous dit, vous savez quoi, votre boîte, elle va fermer. Mais aussi pour les distributeurs, les opérateurs télécoms, et puis les clients, en fait.
Tout à fait. Alors, je dirais presque le moins compliqué, c'était pour les clients, puisqu'en fait, le service a continué après la fermeture. C'est-à-dire que tous les clients, qui aujourd'hui ont encore des Oppo, ont pu avoir accès au service, aux
mises
à jour.
Donc le SAV, tout ça,
le SAV a continué, tout à fait. Donc en fait, pour le client final, il n'y a pas eu vraiment d'impact direct. Effectivement, c'est plus sur l'écosystème où tout le monde... Et c'est pour ça qu'on a anticipé la fermeture. Donc, ça a été fait en mois de juillet, mais on a anticipé 6 mois avant pour réussir à faire en sorte de pouvoir sortir du marché le plus proprement possible.
Ouais, donc à un moment, il n'y a plus d'Oppo dans les magasins.
Tout à fait.
Les opérateurs télécoms ne vendaient plus de téléphone Oppo.
Tout à fait.
C'est ça. Ce blackout a duré combien de temps ?
Il a duré globalement 2 ans. Il a duré globalement 2 ans, puisqu'en fait, on est revenu maintenant il y a 1 an.
Parce qu'après, il y a eu donc une restructuration... Donc, ce distributeur, en fait...
Ce distributeur, lui, est sorti du marché français. Il distribue dans d'autres pays, mais en tout cas, plus sur le marché français. Okay. Donc, en fait, aujourd'hui, le retour en fait, d'Oppo, c'est directement en filiale. Donc, c'est le siège Oppo qui revient directement pour pouvoir reprendre...
Donc, c'est la maison mère, maintenant, qui décide, en fait, de la distribution de ces téléphones.
Tout à fait.
Qui aurait peut-être dû être fait avant.
Le modèle d'Oppo... a toujours fonctionné sur des modes distributeurs. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont venus en Europe de la même façon qu'ils fonctionnent en Chine.
Okay.
Là, aujourd'hui, effectivement, sur l'Europe, ils ont changé un petit peu le mode de fonctionnement du fait de l'expérience qu'ils ont pu avoir auparavant. Donc en tout cas, sur la France, aujourd'hui, on est une filiale.
Et c'est compliqué de revenir en disant « Coucou, on est de retour, les gars. Ça va bien se passer ?»
C'est évidemment compliqué, c'est pas facile. Néanmoins, le retour et en tout cas l'accueil de la part de nos partenaires et des clients est quand même très positif. On se rend compte qu'en 2 ans, en fait, il s'est passé beaucoup de choses, mais en même temps, Oppo est encore dans le cœur de nos utilisateurs, dans le cœur de nos partenaires. Donc, le retour a été plutôt simple au début. Ensuite, maintenant, c'est plus reprendre ses positions, qui est évidemment sur un marché très concurrentiel.
Est-ce que l'image a souffert, en fait, de tout ça ? Vous avez fait des études. Le fait de partir comme ça, de manière abrupte, vous a desservi ?
Non, alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que 2 ans après, toutes les études montrent que, en fait, Oppo est toujours, en termes de notoriété, en D'accord. termes de préférence, numéro 4 sur le marché français, comme on l'était, en fait, quand on est parti. Donc, en fait, une fois de plus, que je dis l'utilisateur final,
il
n'a pas été impacté directement. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de problématique à ce niveau-là.
Alors, aujourd'hui, Oppo, en France, c'est quoi ? C'est donc du smartphone avant tout.
Oppo, c'est du smartphone, c'est évidemment tout ce qui est tout l'écosystème IoT, donc que ce soit des smartwatches, que ce soit
des écouteurs,
que ce soit des tablettes. Voilà, donc, on est sur un écosystème qui est vraiment autour du smartphone, on ne va pas au-delà, donc on est vraiment focusé sur le smartphone, mais avec évidemment un écosystème IoT.
Alors là, vous êtes venu avec un produit, parce que c'est vrai qu'on l'a dit au début assez rapidement, mais Oppo est sans doute l'un des constructeurs de smartphones les plus innovants, parce que vous faites partie d'une grosse galaxie hein, de marques ouais. de smartphones chinoises, hein, c'est BBK, je crois.
C'est BBK, dans
voilà.
Le
donc il y a d'autres marques hyper connues, mais Oppo est un peu on va dire, la figure de proue de tout ça, ce qui fait que vraiment les innovations. Étonnante, arrive chez Oppo en premier. Et c'est le cas avec ce nouveau, c'est le X9, c'est ça ?
C'est le Find X9 Ultra.
Voilà, le Find X9 Ultra qui sort là. Pas facile à dire ça, le Find X9 Ultra. Hein. Qui sort là ?
Qui est sorti il y a quelques semaines.
D'accord.
Tout à fait. Donc qu'on a lancé, donc, et en fait il amène effectivement par rapport à ce que vous disiez, en fait aujourd'hui Oppo, c'est le numéro 4 mondial. Donc évidemment, à travers cette puissance mondiale, il y a évidemment beaucoup d'investissements sur la R&D. Et Oppo a toujours travaillé sur des points spécifiques autour de la batterie, entre oui. autres, avec le système SuperVOOC qu'on avait créé il y a quelques années. On a été les premiers à innover là-dessus. Et aujourd'hui, effectivement, on continue, et on l'a déjà fait, mais on continue à innover et à essayer de repousser les limites de la photo sur le smartphone. Donc en fait, ce smartphone...
La photo, c'est vraiment le truc où il y a encore une marge de manœuvre d'évolution, c'est ça ?
C'en est la preuve. C'en est la preuve parce que pour le coup, effectivement, on arrive aujourd'hui à vraiment repousser les limites de ce qu'on peut faire aujourd'hui sur un smartphone. Aujourd'hui, ce téléphone, c'est un peu un appareil photo qui téléphone aussi. C'est un appareil photo sur lequel je peux tout de suite partager mes photos ou mes vidéos sur mes réseaux sociaux, etc. Donc réellement, c'est, voilà, aujourd'hui, on a vraiment travaillé ce produit pour la photo. Il cible très clairement des fans de photos, des capteurs d'images, voilà, des photos enthousiastes. Donc très clairement, on va chercher ça. On pourrait aussi cibler aujourd'hui des reporters sur BFM. Vous pourriez très bien être équipé, vous équipez vos journalistes pour qu'ils aient ça en main, qu'ils puissent effectivement saisir l'instant, saisir l'actualité et pouvoir ensuite la retranscrire à des niveaux de qualité équivalents aujourd'hui à des appareils photo numériques.
Donc, enfin, réflexe, vous voulez dire ?
Oui, tout à fait, réflexe, pardon.
Parce que là donc, cet appareil, donc, bon, on peut rentrer dans les spécificités, mais évidemment, il doit avoir un capteur gigantesque. Mais ce qui est intéressant, c'est tout l'écosystème qu'il y a derrière photo que vous avez apporté.
Ouais.
De quoi s'agit-il ?
Alors, pour revenir rapidement, effectivement, on a le capteur principal, effectivement, qui est le plus large du marché aujourd'hui, qui existe en France avec un 1.12 pouces. Mais on a surtout, en fait, et c'est un peu la spécificité, on a un double zoom dessus avec un zoom 200 mégapixels qui permet de faire des photos en x3, donc en optique. Et on en a un qui fait du x10, et ça, pour le coup, c'est une vraie innovation que personne n'avait jamais amenée pour l'instant. Du x10, effectivement, sur notre smartphone. Donc là, on a la capacité à la fois à faire des très belles photos au portrait, mais on peut aussi, avec le capteur et le zoom x10, aller prendre des photos. Bah, typiquement, on est en concert, on veut prendre la photo du chanteur qui est très loin de soi. Ouais. On peut avoir une qualité d'usage qui est vraiment
différente de ce qu'on peut avoir.
x10 en optique.
Vraie optique.
Vraie optique, exactement.
D'accord, donc ce n'est pas un mélange de numérique et d'optique.
Non, ça, c'est vraie optique. Et ensuite, derrière, on peut aller plus loin, évidemment, où là, ensuite, il y a un mélange. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, derrière...
C'est sans les accessoires, d'accord.
Tout à fait. Okay. Et si on veut aller plus loin, et c'est là où, en fait, on pousse, on va dire, le bouchon encore plus loin sur la partie photo, c'est qu'en fait, on a un kit qui s'appelle Hasselblad, parce que je ne l'ai pas dit, mais évidemment, tout ça est co-développé avec Hasselblad, donc marque d'appareils photo très haut de gamme et iconique. Et en fait, on a développé donc, un kit qui s'appelle Earth Explorer, sur lequel, en fait, on fournit donc, une coque, évidemment, qu'on vient... positionné sur son smartphone.
D'accord.
Coque qui est Bluetooth, sur laquelle on va pouvoir prendre la photo directement avec le petit bouton et zoomer aussi avec un petit bouton.
D'accord, donc ça transforme en fait, cette coque transforme le téléphone en appareil photo, on va dire, horizontal.
Tout à fait.
D'accord.
Et là, on vient en fait plugger le téléobjectif.
Waouh.
Et comme ça, en fait, on l'a directement en main et on peut effectivement, donc là, aller jusqu'à du x30 en optique. Et donc, là, pour le coup, on est dans une vraie expérience photo, quelque chose qui n'existe évidemment pas sur le marché. C'est l'équivalent d'un 300 mm au niveau du téléobjectif pour les spécialistes. Donc voilà, on est vraiment sur un produit qui a été développé, co-développé, donc sur un cahier des charges d'Hasselblad, sur lequel Oppo ensuite a développé le matériel.
Incroyable. Et donc, tout cet écosystème d'accessoires est disponible qu'avec ce téléphone.
Tout à fait. C'est bien un accessoire.
Que le Ultra, en fait.
Que le Ultra, effectivement. On a le Find X9 et le Find X9 Pro. Le Find X9 Pro avait eu aussi un téléobjectif complémentaire, mais pas aussi quali que celui-ci.
Évolué.
Donc voilà, donc en fait, c'est évidemment dédié uniquement au Find X9 Ultra.
Et le x30, ça sert à quoi, en fait ? C'est pour faire des photos de nature, des choses comme ça
C'est exactement ça. En fait, le x30, on peut... beaucoup plus, effectivement, dans le cas de ce qu'on dit sur des gens qui vont beaucoup voyager, qui vont effectivement aller dans la nature, vouloir prendre des animaux en photo, on peut prendre la lune en photo. Alors ce qui est marrant, parce que ça rappelle aussi un peu l'histoire d'Hasselblad qui avait pris l'appareil qui avait été utilisé sur la lune. Donc voilà, donc en fait, mais en tout cas effectivement, c'est pour aller beaucoup plus loin et d'avoir une vraie expérience photo telle qu'aujourd'hui ça n'existe pas sur un smartphone.
Alors j'imagine que comme c'est du très haut de gamme, le tarif doit être
le tarif
à la mesure.
Il est à la mesure. Alors aujourd'hui c'est un produit qui est vendu à 1699 €, donc quasiment 1 700 €. Chez nos partenaires, ensuite, voilà, il y a des offres de
reprise. Que le téléphone avec le système.
Le système en fait que je montre là, en fait, il était offert durant la précommande.
D'accord.
C'est un produit qui initialement on voulait utiliser uniquement sur précommande, mais vu le retour qu'on a, on va sûrement le commercialiser en France et sûrement réorganiser des opérations dessus. Donc on va lancer ce produit qui était initialement surtout un produit de précommande et au final on a vu l'accueil. On dit qu'il y a un vrai marché, un vrai besoin.
Et combien coûte à peu près ? On a une idée du prix de l'objectif ?
L'objectif, en fait, le kit, il coûte 599 €.
Ok. Oui,
avec tous les accessoires qui vont avec.
Voilà.
Évidemment, ça comprend tout.
C'est sûr que c'était une bonne affaire de l'avoir en précommande offert. Ça, c'est clair. Alors, voilà pour ce produit. Il y a aussi une autre tendance qui est très forte chez les constructeurs de smartphones, c'est le pliant. Et là aussi, vous n'êtes pas à côté de la plaque, hein, parce que vous êtes sur le pliant depuis de nombreuses années. Et là, vous avez sorti aussi un pliant qui est assez intéressant et qui est très révélateur de l'innovation technologique sur les pliants, c'est que quand on l'ouvre, en fait, grâce à une nouvelle charnière, on ne voit plus la pliure sur l'écran, en fait.
Tout à fait. Donc, en fait, c'est le Find N6 qui a été lancé, alors malheureusement pas en Europe, uniquement en fait, sur le marché asiatique, mais en tout cas, il amène cette grosse innovation. Là, sur le Ultra, l'idée, c'était d'amener beaucoup la partie photo. Là, sur les téléphones pliants, aujourd'hui, la vraie problématique, elle est souvent sur la qualité de l'écran. Donc évidemment, on a travaillé sur un écran spécifique avec une mécanique spécifique au niveau de la charnière où effectivement, quand on ouvre le produit, on ne voit plus du tout la pliure et quand on passe le doigt dessus, on ne sent même pas la charnière. Donc ça, c'est très clairement encore une innovation que Oppo a amenée sur le marché.
Enfin, c'est une innovation un peu générale. Hein. On a l'impression que tous les constructeurs de smartphones aujourd'hui
ils vont arriver dessus.
Cette technologie.
On va dire qu'en fait, on a été les premiers à commercialiser cette technologie. Ensuite, cette technologie, on va la revoir évidemment obligatoirement sur le marché.
Apple, juste un mot là-dessus, alors qu'il est l'un de vos concurrents, qui pourrait lancer un smartphone pliant, c'est plutôt un bon signal, ça, à votre avis, le fait qu'Apple se lance là-dessus? Est-ce que ça va booster les ventes, à votre avis, de pliants? Quel est votre point de vue?
Je pense que c'est une bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on a décidé sur le marché européen de lancer l'Ultra et de ne pas lancer le pliant, parce qu'aujourd'hui, on estime que le besoin du marché européen, il est plus sur la photo qu'aujourd'hui sur un produit pliant. Le marché n'est pas encore assez mature pour y aller. Très clairement, oui, si notre concurrent californien décide de lancer, ça devrait démocratiser. Ça va démocratiser, donc évidemment, voilà, on réévaluera effectivement la possibilité de lancer un produit pliant si le marché se développe tel qu'on peut l'attendre.
Voilà le retour sérieux d'Oppo en France. Merci beaucoup pour toutes ces précisions rappelons que ce produit est disponible d'ores et déjà, c'est ce que vous disiez.
Tout à fait.
Rappelons le prix.
Il est donc disponible à 1 699 €, et on peut le retrouver chez nos partenaires Fnac, Darty, Boulanger, Télécom, LDLC.
Parfait. Jean-Benoît Fossa, merci. Rappelons que vous êtes directeur commercial France chez Oppo. Pour terminer ce De quoi je me mail, merci d'avoir été là et d'être fidèle à ce rendez-vous, que ce soit en vidéo ou en audio. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et puis, si vous êtes avec nous en podcast, tout de suite, on enchaîne avec quelques minutes supplémentaires avec le retour de Pierre Fontaine et de Jérôme Colombin. Merci en tous les cas d'être là. À la semaine prochaine. Salut à tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.